Cyril Paglino, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de Starchain Capital. On va parler avec vous de donc ce fonds d'investissement dédié aux crypto-actifs et aux projets blockchain. Là, on est dans effectivement le dur de ces nouvelles technologies, ces nouveaux modes aussi d'investissement, pourquoi pas. Qu'est-ce qui vous a amené déjà à vous intéresser à ces sujets-là? Vous aviez une aventure entrepreneuriale avec Tribe, messagerie vidéo, il y a quelques années. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre ce virage?
Ouais. Tribe, ça fait maintenant 5 ans. On a commencé à Paris, on a déménagé aux États-Unis il y a 4 ans et demi. Super aventure, donc mobile, consumer, projet de communication et de messagerie en vidéo sur iPhone et Android. Aventure passionnante en tout point et on a stoppé l'aventure il y a quelques mois maintenant. Depuis 4 ans, 4 ans et demi, j'avais commencé moi à titre personnel à investir en tant que business angel dans des sociétés classiques, start-up américaines et françaises aussi. Et à côté, à m'intéresser aux technologies décentralisées, donc à m'intéresser au Bitcoin, aux ICO, à Ethereum, etc. Et donc j'ai commencé à investir à ce moment-là. De plus en plus, j'ai vu moi en étant à San Francisco une espèce de vague et de trend arriver. Et depuis 2 ans et demi maintenant, il n'y a pas un café où on ne parle pas de crypto-monnaie à San Francisco. Donc effectivement, je suis tombé dedans assez naturellement.
On parlait de Tribe. Tribe a été rattrapé par les géants de ces endroits-là qui effectivement, quand ils lancent on va dire un service équivalent, bah une start-up comme Tribe ne peut pas lutter après malgré plusieurs levées de fonds.
Ouais, on a eu beaucoup de mal. En fait, un produit consumer, il faut, c'est assez simple. On lève de l'argent pour proposer un produit et pour avoir une audience. Donc, proposer le meilleur produit. Donc, on est une équipe de 15 personnes, designers, ingénieurs. On travaille dur sur un produit qui est au début assez unique. Et très vite, Messenger, Facebook, Snapchat, Instagram s'inspirent du marché et c'est normal. Et ils ont les équipes pour le développer beaucoup plus vite que vous et pour le distribuer surtout à grande échelle. Et donc, une fonctionnalité nouvelle chez vous qui fait votre différence sur les premiers mois peut devenir juste une fonctionnalité en plus de Facebook Messenger ou de WhatsApp ou de Snapchat en quelques mois malheureusement et ensuite on est assez vite étouffé. Donc le marché consumer social et de la messagerie est assez compliqué et les gros ont tellement maintenant d'avance qu'on se dit que ça va être compliqué que de nouvelles boîtes émergent. De plus en plus, j'y crois encore moi, mais je pense que c'est de plus en plus compliqué. D'ailleurs, il n'y a pas de nouveau qui a émergé depuis Snapchat, ça fait 5 ans.
Oui, c'est quand même significatif. Ouais. Du côté justement de ces crypto actifs et de cette blockchain, autant investir dans une entreprise, on va dire lambda, les fonds d'investissement, il y en a aux États-Unis, il y en a en France, savent faire. Mais là, on est dans un univers qui en est à ses débuts. Ouais. Quelle analyse vous faites justement cet univers-là? Parce que vous dites, bon, bah voilà, dans tous les cafés, on parle crypto, voilà, on peut peut-être acheter des cryptos, mais il faut savoir dans quoi on investit.
Exactement. Aujourd'hui, la meilleure expression, c'est le Far West, pour le décrire. C'est un peu l'Internet des années 95. On a des dizaines de projets qui sortent de tous les pays, en Russie, en Chine, en Europe, aux États-Unis, constamment, mais très peu de très bons projets et surtout très peu de très bons ingénieurs capables de coder ces protocoles bas niveau. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, c'est des maths et de la science très compliquées. Et les meilleurs ingénieurs sont des profs de cryptographie à Stanford, à Berkeley, à Caltech. Et malheureusement, les ingénieurs, les très bons ingénieurs mondiaux qui sont sur du développement mobile ou back-end n'ont pas forcément les capacités tout de suite pour s'adapter à ce nouveau langage. Donc si vous voulez, il y a déjà quelques centaines d'ingénieurs dans le monde qui sont capables de coder ça. Et donc c'est pareil pour les investisseurs, pour avoir les capacités de comprendre et d'investir sur tous ces projets avec toutes les espèces de, je dirais, scams, escroqueries et volumes d'affaires qu'il y a. C'est compliqué de discerner un bon et un mauvais projet. Et pour le faire, il faut aller dans le code, il faut ouvrir GitHub, il faut voir le code source, il faut lire les 100 pages de white paper, il faut comprendre ce qui se passe. Au-delà de juste les aspects traditionnels de l'équipe, le marché, le produit, là, il faut aller très profond dans le code, voir s'il est vraiment faillible, s'il utilise vraiment la blockchain comme il le faut, etc. Et donc, ça demande beaucoup de compétences. Donc, dans l'équipe, on est plus d'ingénieurs que de financiers chez Starchain Capital parce qu'on a besoin d'ingénieurs aujourd'hui pour discerner ces projets.
Alors effectivement, vous parliez de ce white paper, c'est un peu pour ceux qui connaissent la bourse, le document de référence voilà, que les entreprises présentent aux investisseurs. Aujourd'hui, ils sont un peu plus lisibles qu'au départ. Au départ, on avait vraiment l'impression que c'était sur 4-5 pages, voilà, on disait c'est top et ça va marcher.
Disons qu'on est beaucoup plus exigeant après les 2 ans de folie un peu qu'on a vu avec des ICO qui levaient des dizaines de millions d'euros dans tout type de pays et qui ensuite disparaissaient, des boîtes qui s'évaporaient, il y en a quelques-unes quand même. Donc il y a eu vraiment beaucoup d'escroqueries qui se sont passées depuis 2 ans et aujourd'hui, je pense qu'on arrive à un moment où les investisseurs amateurs mais aussi professionnels sont de moins en moins crédules et veulent de plus en plus de preuves que le produit existe, que l'équipe existe. Il y avait des équipes d'ingénieurs russes avec des faux LinkedIn, des fausses vies en fait, des faux développeurs qui se créaient, des fausses biographies, des faux CV qui levaient 10, 20, 30, 50 millions et qui disparaissent dans la nature. Ça existait il y a un an ça. Donc voilà, donc là cette folie est un peu passée, le Far West est un peu passé, ça l'est toujours mais du coup maintenant on a de plus en plus de crédit, on a besoin de plus de preuves à investir. Donc il y a plus de recherches, etc. Voilà.
Alors sur les crypto-monnaies, on l'a vu à un moment donné, certains ont dit il y a une bulle parce qu'on a vu effectivement cette courbe impressionnante notamment pour le Bitcoin. Et puis on a vu aussi le Bitcoin s'écrouler, on a vu d'autres aussi perdre beaucoup en termes de valeur. quand on regarde cet univers-là, effectivement, il y a le Bitcoin qui est devant les autres, mais qui a fait ses pertes, on va dire, financières pour ceux qui ont investi au mauvais moment. Est-ce que ça se développe quand même? Est-ce qu'il y a des, on va dire, est-ce qu'il y en a qui sont dans le dur aujourd'hui, qui vont durer d'après vous?
Bien sûr. Aujourd'hui, il y a 1500 projets décentralisés qui sont considérés comme des crypto-monnaies. Bitcoin est le plus gros projet aujourd'hui. La market cap du marché global des crypto-monnaies, c'est aujourd'hui 200 milliards. C'est monté à 800 milliards, donc 4 fois plus au mois de janvier dernier. On imagine la taille énorme du gap. Le marché a perdu 80% quand même. Ça se passe rarement dans peu de marchés, ça, aujourd'hui. Donc c'est assez fou. Pourquoi? Parce que l'usage de la blockchain et donc des applications qui sont créées on top of it, au-dessus de la blockchain, s'est développé à peine x2 en un an. Mais la valorisation a fait au moins x30 en un an et demi. Donc si vous voulez, ce gap entre l'usage réel et la valorisation folle donnée par le marché était trop large. Et à un moment donné, comme toutes les bulles, à un moment donné, ça a explosé, ça craque. Après, il faut remettre ça un peu en perspective et aussi prendre un pas en arrière. Le marché des crypto-monnaies fonctionne comme ça depuis quasiment 10 ans. Bitcoin est monté de 7 centimes à 2 dollars, il est retombé à 20 centimes, et ensuite à 10 euros, et ensuite à 1 euro. Et il est monté par palier. Et tous les 2-3 ans, il y a des cycles de paliers, des cycles de presse, des nouveaux ingénieurs qui arrivent, une nouvelle énergie, une bulle, et ça repart. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Chaque bulle est tout le temps au-dessus de l'ancien pic, d'il y a 2 ans, toujours. Donc le Bitcoin, il est à 6 000 euros, l'ancien pic était à 1500. Le maximum pic était à 20 000. La prochaine crise qui arrivera dans 2-3 ans avec une grosse inflation avant qui va lui précéder sera, j'imagine, beaucoup plus haute. Et c'est normal, c'est comme ça que fonctionne le marché.
Alors, vous parliez de ces faux ingénieurs sur LinkedIn. Effectivement, il y a un certain nombre de faux profils aussi dans
C'est
d'autres
fou.
domaines, mais on n'en est pas là pour en parler. La sécurité, on sent bien la sécurité, que ce soit sur ces crypto-monnaies, puisqu'on le voit régulièrement, on voit des failles dans le
Bien sûr.
système. C'est la clé, mais vous parliez de ces ingénieurs, il y en a très peu finalement qui sont capables de sécuriser tous ces systèmes aujourd'hui.
Ouais. La sécurité, le custody, la sécurité, la façon de garder dans un coffre sa richesse cryptoactif, est un énorme sujet aujourd'hui. Tous les hacks qu'on voit au quotidien et depuis MTGOX, le fameux hack au Japon il y a 5 ans, et tous les autres qui ont suivi, ce n'est pas des hacks de la blockchain, qui elle est vraiment inviolable. Ce sont des hacks des à côté. Imaginez que vous avez une carte bleue, vous la perdez, ou vous donnez votre code à votre femme, et techniquement quelqu'un l'entend, et ensuite à votre code. Tous les hacks sont liés à ça. C'est jamais un hack pur de la blockchain, mais des hacks sociaux ou avec des infos qui ont leaké, etc. Mais effectivement, il y en a tout le temps. Et comment garder ces coins en sécurité à la banque ou sur un wallet digital ou un wallet physique, c'est un énorme sujet. En France, on a une boîte incroyable, Ledger, qui est effectivement le coffre physique le plus safe, qui coûte 150 euros ou dollars, je ne sais plus, qui est le plus safe aujourd'hui. On a une technologie de carte à puce qui est utilisée par Ledger, qui est incroyable. Et de plus en plus de boîtes se développent dans ce sujet parce que la façon de garder et de sécuriser son asset est effectivement primordiale.
Le fonds d'investissement, donc aujourd'hui, il y a des projets, vous dites, entre 100 000 et 500 000 dollars. On est presque dans l'amorçage, on en est
Ouais.
vraiment, c'est ça?
Nous, on rentre extrêmement tôt, dans assez peu de projets, parce qu'on est basé à San Francisco, on a accès à ce deal flow d'ingénieurs brillantissimes qui sortent des écoles de Californie, aussi effectivement l'écosystème californien qui aide vachement, et aussi nos copains dans les différents fonds qui sont les fonds réputés en ce moment, avec qui on fait beaucoup de deals et qu'on suit beaucoup. Donc les quelques deals qu'on a fait depuis 8 mois et les prochains, ce sera souvent au sein d'un large consensus d'investisseurs, et nous on est souvent le petit player, on va dire, derrière. Souvent le seul français, même tout le temps le seul français, qui rentreront derrière des gros comme Sequoia, A16Z, Bain Capital, Kleiner Perkins et les autres. Voilà.
Pour terminer, l'expérience que vous avez eue, on en parlait tout à l'heure, ça vous sert aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être, vous avez peut-être fait des erreurs comme d'autres entrepreneurs,
Évidemment.
voilà, qui testent.
Ouais.
Là, vous investissez, donc vous avez peut-être encore moins le droit à l'erreur.
Ouais.
Qu'est-ce que vous avez retenu de ces années?
Ouais, un paquet. Déjà, moi, j'investis depuis quasiment 5 ans, donc j'ai fait beaucoup d'erreurs à titre perso avec mon argent avant de le faire avec ceux des autres. Donc j'ai aussi beaucoup appris. J'ai eu des retours très positifs depuis 5 ans, donc c'est pour ça qu'avec Andrea, Vincent, mes associés, on s'est décidé de se lancer aussi à fond sur le sujet, parce que depuis des années, on était assez bon à titre perso. Les erreurs que moi, je dirais que j'ai faites et que je ne voudrais pas reproduire, la chose, c'est que moi, j'ai beaucoup trait sur la partie produit consommateur. Aujourd'hui, sur la blockchain, on est encore à 2 ou 3 ans de ça. On est vraiment beaucoup plus bas sur les protocoles. Je pense que ma plus-value à moi, à l'avenir, dans des boîtes qui vont se financer les prochains mois et années, c'est mon expérience sur le design, sur le produit, sur le time to market et ma connaissance du marché consumer. Et il y a pas mal de boîtes crypto qui sont encore aujourd'hui sans logo, très mal designées, juste faites par des ingénieurs et pas du tout design friendly et consumer friendly. Pardon pour les anglicismes, mais voilà, vous comprenez bien. Donc voilà, donc l'idée, c'est effectivement que je pense ma plus-value va grossir sur le temps parce que, un, j'ai cette plus-value-là et deux, j'ai un réseau d'ingénieurs français parce qu'on a des superbes écoles d'ingénieurs en France, on le sait tous, que les Américains raffolent. Et donc, j'essaierai moi de ramener de plus en plus de talents français en Californie ou du moins d'avoir un pont entre les deux. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui le fait ici en France, donc je pense que c'est un bon sujet à prendre.
Voilà, ça va devenir un sujet sensible parce que bah,
Ouais.
on a besoin de nos ingénieurs en France pour
Bien
nos
sûr, mais il y en a
entreprises.
plein
Donc,
qui montent des boîtes en France aussi.
oui.
Arc et Français-Américains, par exemple, fondateur français, super sujet. Voilà, magnifique. Donc il en faut d'autres. Voilà.
Merci beaucoup Cyril Paglino
Merci.
d'avoir été avec nous.